Vous êtes bien sûr Radio Orient, émission rencontre consacrée à la fête du Maolid, la célébration de la naissance du prophète. Trois invités dans votre émission, le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, le père Vincent Feroldi, ex-directeur du service national pour les relations avec les musulmans au sein de la conférence des évêques de France. Il reviendra sur l'importance du dialogue islamo-chrétien. Entretien tout de suite avec Ghaleb Bencher.
Ghaleb Bencher, président de la Fondation de l'Islam de France, le Maolid ce dimanche. Est-ce que vous pouvez, vous qui êtes également bien entendu islamologue, nous rappeler le sens de cette fête, l'anniversaire du prophète ?
Alors le Maolid, étymologiquement naissance, nativité, anniversaire de la naissance du prophète de l'islam, Mohammed, est une fête désormais principale. Alors pourquoi j'ajoute désormais ? Parce que en réalité, elle ne fait pas partie des fêtes essentielles et principales sur l'année liturgique islamique. Mais il se trouve que particulièrement à partir du 10e et pour certains essentiellement à partir du 12e, 13e siècle, est devenue présente dans la vie religieuse des musulmans. N'a pas été institué par le prophète lui-même, ce que nous pouvons tous comprendre. Il n'a jamais dit de sa vie, vous aurez un jour à célébrer ma naissance, bien entendu. Elle est venue lorsque, avec l'expansion de l'Empire, comme on dit, des musulmans avaient été en contact, notamment avec des chrétiens, et quand ils avaient, je parle des musulmans, eux-mêmes et surtout leurs hiérarques, leurs théologiens et leurs dignitaires ont vu la figure du Christ comment était centrale dans la vie religieuse et spirituelle des chrétiens. De fait, et de par ce contact, il y a eu aussi cette idée de faire de la figure du prophète de l'islam comme un pivot central aussi de la vie religieuse. Et c'est ainsi, alors d'aucuns disent que c'est du temps des Fatimides. La dynastie Fatimide et les califes Fatimides, de par leur nom, se rattachent à Fatima, la fille du prophète. Et donc là, en gros, surtout lorsqu'ils sont venus en Égypte, on est vers 969-970, commençait à avoir cet intérêt réel pour la naissance du prophète. On parle du sultan d'Erbil. Là, on est en gros vers la charnière 12e, 13e siècle. Et tout particulièrement au Maghreb, notamment avec la dynastie Mérinide, on est dans le 14e siècle. Et depuis lors, cet engouement, cet intérêt, cette volonté de célébrer la naissance du prophète ne s'est jamais démenti. Hormis récemment, on peut compter en années où des salafistes ou des fondamentalistes qui disaient « ce n'est qu'une innovation ». Mais je pense que la question est réglée, donc c'est un temps fort pour les familles, pour les enfants, un moment de spiritualité où l'on médite le comportement même du prophète de l'islam, suscité ou envoyé comme miséricorde pour les univers. Et il n'a été envoyé, en tout cas pour les croyants musulmans, que comme parachèvement de la noblesse de la vertu. Et donc les musulmans et musulmanes auront à méditer sa vie, son comportement, sa patience, sa magnanimité, sa longanimité, sa générosité, son humilité, sa simplicité aussi, et l'enseignement d'amour, de bonté et de miséricorde qui fut le sien.
C'est une fête qui est un jour férié dans de nombreux pays. Est-elle célébrée différemment selon les régions ?
Alors, il y a, j'allais dire, une figure imposée un peu partout qui est effectivement de veiller ou de célébrer cette fête en soirée avec de la lumière, avec des bougies, avec des chants. Et il y a des figures libres selon les régions et les contrées. Alors, dans les sociétés, l'appellation exacte, majoritairement musulmane, et surtout s'il y a une collusion entre le politique et le religieux, ou là, l'islam est religion d'État, chose qu'il faudrait savoir résoudre et aplanir plus tard comme difficulté, dans certains pays, c'est un jour férié. Pour d'autres, il y a une ambiance de fête et une allégresse et une joie. L'ambiance est festive, véritablement, mais que l'on soit au Sénégal ou que l'on soit en Indonésie, il y a des spécificités propres à ces sociétés et à ces pays. Chez nous, en France, cette année, ça tombe un dimanche, donc c'est une occasion pour que les familles qui tiennent à donner un caractère à la fois religieux, spirituel et aussi festif de cette fête, de pouvoir échanger, se rendre visite mutuellement, aller à la mosquée pour assister à quelques causeries ou encore réunir à la fois les amis, les membres de famille et surtout les enfants.
Pour quelles raisons sa célébration suscite-t-elle la controverse au sein de certains milieux ?
Alors, ces milieux-là sont plutôt, pour utiliser un terme très euphémistique et simple, dits fondamentalistes ou salafistes. Ils tiennent au pied de la lettre au fait que le prophète de l'islam ne l'a jamais institué. Ça revient au début de notre entretien, que, et pour cause, et quiconque le comprendra, il n'a jamais, et puis c'est pas une idée qu'on se fait du prophète de l'islam, de dire « vous aurez à célébrer ma naissance ». Ce serait à la fois du narcissisme de mauvais aloi, et c'est vrai que les premiers temps, les compagnons du prophète, les tout premiers califes, et puis même toute la dynastie Omeyyade, les Abbassides dans leur phase ascendante, n'ont jamais eu à célébrer la naissance du prophète. Comme c'est venu d'une manière tardive, d'ailleurs cela n'a jamais posé de problème, c'est ce fameux retour, une sorte de pseudo-réforme, qui est le retour à la pratique des pieux anciens, qui pousse certains parmi ces milieux dits salafistes, fondamentalistes ou wahhabites à dire qu'il ne faut surtout pas la célébrer parce que c'est une innovation, sous-entendu une innovation blâmable, et quiconque va dans le sens d'une innovation blâmable sera dans l'égarement, et comme il est égaré, il va finir par périr par le feu de l'enfer. Ce à quoi rétorquent les autres, que de toute façon, célébrer la naissance du prophète et méditer sur sa vie, sur son apostolat, sur son ministère, sur sa mission, ne peut être que quelque chose de bénéfique. En quoi cette innovation est blâmable ? Bien au contraire, elle est, on ne peut plus, louable.
Le président de la Fondation de l'Islam de France, Raleb Bencher, je vous propose à présent d'écouter le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou. Il revient notamment sur les différents aspects de Maolid.
Il ne s'agit pas d'une fête canonique comme la fête du sacrifice ou la fête du déjeunement ou la fête de fête qui vient après le jeûne du mois de Ramadan. Il s'agit d'une commémoration de la naissance du prophète. Donc il ne s'agit pas véritablement d'un moment rituel qui appartient au calendrier liturgique. Mais c'est une tradition historique. Les musulmans, ils ont pensé à leurs prophètes. C'est grâce à eux qu'ils sont musulmans. Donc, ils fêtent justement sa naissance comme un événement historique important. À ne pas confondre avec la naissance de Jésus, qui est une naissance un peu particulière. La naissance du prophète est une naissance totalement normal, comme on dit, mais par amour au prophète, les musulmans commémorent cet anniversaire. Mais il n'a aucune portée liturgique, ni canonique, ni rituelle.
Qu'est-ce qui est mis en lumière à l'occasion du Maolid ?
C'est un moment où les savants, les imams, les prédicateurs rappellent les aspects de la personnalité du prophète. C'est un être humain, bien sûr, avec ses aspects tout à fait humains, avec une fonction prophétique, ses vertus, ses qualités, puisque le prophète est présenté par le Coran comme un modèle à suivre. Et donc c'est un modèle à suivre, mais à partir de notre condition. Il ne s'agit pas de reproduire l'histoire du prophète et sa psychologie et son côté identitaire, mais plutôt suivre ses enseignements qui traversent le temps et l'espace. Donc effectivement, c'est un moment on rappelle aux musulmans l'être où c'est combiné deux aspects, un aspect humain, un aspect prophétique, puisque il est le messager. Et donc effectivement, c'est un moment où on rappelle la sira, c'est-à-dire la biographie du prophète, son enfance, son adolescence, l'âge adulte, son mariage, ses enfants, voilà, c'est tous les aspects un peu biographiques, en plus des aspects, de ces aspects apostoliques.
C'est une commémoration religieuse, vous l'avez souligné, non canonique. Est-ce un élément qui peut favoriser le dialogue interreligieux, comme le sont de nombreuses célébrations religieuses ?
Effectivement, il ne s'agit pas de relater l'histoire du prophète en abstraction des enjeux contemporains, puisque la personne du prophète est une personnalité conceptuelle qui doit toujours être d'actualité pour le croyant. Donc, on doit tirer de sa vie les aspects qui répondent à notre contexte. Par exemple, comme le dialogue interreligieux, pour ne citer que cet exemple, puisque vous posez la question sur le dialogue interreligieux, bien sûr. D'abord, l'islam n'est pas une nouvelle religion, mais c'est la religion qui s'inscrit dans le sillage du monothéisme judaïque et chrétien. Et à cet égard-là, il y a déjà un lien théologique avec les religions révélées. Et puis le prophète, il avait des attitudes d'ouverture sur les gens du livre, puisque le prophète a reçu l'évêque de Najran, une tribu yéménite, dans sa propre mosquée. Il l'a laissé pendant une semaine célébrer son propre culte, sachant qu'il va célébrer la Trinité, ce qui est un blasphème pour le musulman. Mettons la relance oblige, il a accueilli l'évêque avec les chrétiens. Il leur a donné la mosquée, sa propre mosquée, la deuxième mosquée sacrée de l'islam, pour qu'ils célèbrent les messes et les prières. Pour dire attention, on n'est pas d'accord sur l'interprétation chrétienne de la personne de Jésus, mais il y a un lien théologique et spirituel avec cette religion. Et donc, c'est un acte de sa part très symbolique, et notamment à l'égard du christianisme, mais également à l'égard du judaïsme, puisqu'il avait des rapports très, 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 très forts avec le judaïsme. Donc effectivement, il faut tirer de la personnalité du prophète cette dimension interconvictionnelle, cette ouverture sur l'autre qui dépend forcément musulman. Donc effectivement, tout dépend de l'art, de la narration, de la vie du prophète. Il ne faut pas toujours rappeler la biographie du prophète en abstraction des enjeux contemporains. Et donc il faut comme on interprète le Coran, comme on interprète la Sunna, on doit interpréter des aspects du prophète pour qu'il soit en phase avec notre époque.
Le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, à l'occasion de Maolid, coup de projecteur sur le dialogue islamo-chrétien, avec le père Vincent Feroldi, également historien, ex-directeur du service national des relations avec les musulmans au sein de la conférence des évêques de France, prêtre du diocèse de Lyon. Il évoque un besoin de dialogue, le père Vincent Feroldi.
Et non seulement il y a un besoin, mais il y a aujourd'hui, vu la fracture de notre monde, vu les conflits, le constat que c'est ô combien difficile aujourd'hui. Les événements nous poussent finalement à nous opposer ou à rentrer dans une espèce de communautarisme. Et il est donc essentiel d'inverser la vapeur, si je puisse ainsi m'exprimer, et d'essayer de tisser, j'ai envie de dire, de retisser. Parce que Lyon a, là aussi, a une tradition plus ou moins de 50 ans au niveau de l'interreligieux, et les temps présents sont très difficiles, surtout et en particulier à la suite du 7 octobre. Donc aujourd'hui, il y a urgence à trouver des chemins, voire des chemins nouveaux. Alors je me réjouis, dans quelques jours, c'est les journées du patrimoine. C'est l'occasion de se visiter dans nos différents lieux de culte. Bon, je travaille aujourd'hui beaucoup en milieu hospitalier, qui est de, ensemble, d'être à l'écoute du patient dans la diversité de ses religions et de ses convictions, et là, de se mettre en lien les uns avec les autres pour que tout patient puisse être pris en compte dans ce qui va être ses convictions, sa foi et sa religion. Et puis, il y a le désir aussi dans nos quartiers de, et là, j'ai envie de dire, dans la dynamique, on dit, c'est une parenthèse enchantée, mais j'espère que ça peut être une parenthèse. Je pense aux Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, qui a créé finalement, pas seulement à Paris, mais aussi à Lyon, et puis je dirais dans toute la France, plus largement, la possibilité de se dire, mais on est heureux d'être ensemble dans ce qui va être la diversité, que ce soit au niveau de notre santé, handicap ou pas, ou de nos différentes nations, nationalités, etc.
Et cela, c'est important de le maintenir. Vous êtes historien, Père Vincent Feroldi. Est-ce que vous pouvez nous faire part des dernières grandes étapes de l'avancement de ce dialogue islamo-chrétien?
Alors, on fête les 50 ans du Service national pour la relation avec les musulmans, mais comme je l'ai dit, en fait, il faut au moins monter aux 60 ans, puisque pour l'Église catholique, il y a eu le Concile Vatican II, 1962-1965. Mais même, il faudrait remonter finalement dans ce qui s'est vécu d'une manière forte dès la fin du 19e et du 20e, alors qu'on est quand même dans la période de la colonisation, où il y a les protectorats. Donc, on voit bien aujourd'hui que, heureusement qu'il y a eu une décolonisation, il y a eu des guerres d'indépendance. Mais finalement, au fil des décennies, des hommes et des femmes ont été un peu à l'encontre de ce qu'était la société de leur époque, qui pouvait nous mettre en opposition les uns avec les autres, et au contraire, ont commencé à tisser des liens. Alors, c'est des liens qui passaient au quotidien à travers des actions sociales, des actions sanitaires, de proximité, éducatives. Et puis, par la suite, il y a aussi les solidarités au moment des luttes pour les indépendances. Et puis, au lendemain des années 60, avec les migrations de plus en plus importantes, aussi de voir comment s'entreconnaître, aussi permettre à l'immigré qui arrive en France de pouvoir s'insérer dans l'espace français avec sa culture, mais en même temps dans un respect commun. Mais ça, c'est un combat de tous les jours, et j'emploie exprès le mot combat parce que c'est pas un acquis. Il faut le vouloir, et il faut aussi, et je dirais tout particulièrement aujourd'hui, innover, c'est-à-dire de trouver une nouvelle forme de pouvoir se retrouver et mener des actions communes dans un monde qui est en plein changement.
Le père Vincent Feroldi, ex-directeur du Service national des relations avec les musulmans de la Conférence des évêques de France, historien, prêtre du diocèse de Lyon. Fin de cette émission Rencontre. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.